Hollywood. Impossible de détourner le regard face à ces images. Avec nos invités, un cinéaste et un architecte, nous reviendrons bien sûr aujourd'hui sur l'incendie qui a ravagé hier soir Notre-Dame de Paris, ce patrimoine mondial de l'humanité. L'architecte Rudy Ricciotti, qui signe en ce moment chez Textuel l'exil de la beauté. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, le réalisateur allemand Wim Wenders, il a conçu et mis en place une installation monumentale dans la nef du Grand Palais à Paris, où il expose son cinéma et motion, e-motion. Wim Wenders est à retrouver tout de suite sur France Culture ou à écouter plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Wim Wenders.
Bonjour Olivia.
Habituellement, les anges et les archanges veillent sur elle. Hier, ils n'ont rien pu faire. Qu'avez-vous, vous, ressenti en devenant, comme nous tous, le spectateur impuissant de cette tragédie, Notre-Dame en flammes, hier soir?
Oh là là, je l'ai vu encore dans l'après-midi. On était sur le toit du Centre Pompidou pour un tournage en pleine vue de Notre-Dame. Et puis plus tard, on est avancé au Trocadéro. Et tout d'un coup, il y avait cette grande colonne de fumée. Et c'est là que les gens qui passaient ont dit « Il y a Notre-Dame en feu ». Et bon, je crois qu'on se rend compte seulement que quelque chose est tellement précieux quand c'est en danger. Et Notre-Dame, moi j'ai tellement pris, comme tout le monde, tellement pris comme garantie, c'est là, évidemment. Ça m'a accompagné toute ma vie depuis que j'étais comme gosse pour la première fois à Paris. Je suis toujours allé à Notre-Dame, c'était un lieu de référence pour moi. J'ai fait mes études à côté, en quartier latin. J'ai passé tant d'heures là, à l'intérieur, parce que c'est aussi un lieu incroyable de paix. Et bon, on se rend compte seulement comment on apprécie ça, si tout d'un coup on se rend compte que c'est fragile. C'était le contraire, la fragilité. La Notre-Dame, c'était la chose la plus forte à Paris. Et voilà, j'avais les larmes aux yeux comme plein de gens autour de moi.
Qu'est-ce qui est si précieux, pour reprendre le mot que vous venez d'avoir?
Ça nous donne une autre idée de temps, un building comme ça. Ça nous donne une autre idée que nous, on est assez relatif et que notre vie est assez passagère. Et un building comme ça, c'est pas nature, pas passagère, celle-là. Et que c'est en flamme, tout d'un coup, ça se traduit sur nos propres vies, je crois. On se sent tous en flamme. On sent que comment c'est précieux, la vie. Si quelque chose qui a une vie si longue et si dure et si stable peut être si vulnérable.
C'est pour ça peut-être qu'en voyant ces images hier, il était difficile de ne pas penser à la scène d'ouverture des Ailes du Désir, votre film Wim Wenders, où l'ange Cassiel, Bruno Ganz, éternel, immortel, perché en haut d'un clocher éventré, celui d'une cathédrale déjà sans âge, la Kaiser Wilhelm Gedenkniskirche de Berlin. Il regarde passer les hommes, il regarde passer le temps, et dans ses yeux à lui, on voit que ce qui semble immuable devient aussi en quelques heures périssable.
Oui, c'est exactement ça. Et si jamais j'avais tourné ce film à Paris, je suis sûr que dans cette première image du film, l'ange aurait regardé de là-haut, d'un des deux tours de Notre-Dame.
Et qu'est-ce qu'il aurait vu? Montrer les humains dans le regard des anges, hein, c'était ça aussi les Ailes du Désir. Il faut imaginer ce qu'ils ont vu hier soir de là-haut, ces anges de Notre-Dame de Paris, ces visages en pleurs, ces regards abasourdis, ce recueillement aussi, ça c'était le hors-champ. On a vu les images de la cathédrale en flammes, un peu moins tous ces visages que l'ange aurait pu voir de tout là-haut. Hein.
Bon, il aurait aussi entendu les voix intérieures, les pensées. Et je crois les gens ont eu la même pensée. Parce que c'était un peu la mort d'un building qu'on voyait. Heureusement, elle n'est pas morte. Elle a survécu à peine. Mais nous, tous qui ont regardé, il y a une petite morte qui est arrivée dans chacun de nous. La mort, ça vient toujours en petite portion.
Reconstruire, restaurer, comme Zimmerman dans L'ami américain, c'est aussi ça qui nous rend humains, parce qu'après la destruction, il y a aussi la reconstruction, Wim Wenders.
C'est une énorme force de l'humanité, de pouvoir reconstruire, de pouvoir recommencer à zéro, de se dire on peut faire mieux, on va faire un nouveau effort, mais on va apprendre de l'histoire. Malheureusement, c'est juste pour notre époque aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui semblent ne rien apprendre de l'histoire. Malheureusement, notre continent, notre si beau continent, il a eu une histoire de guerre et de sang. Et tout ça, c'était toujours déclenché par le nationalisme. Et que ça revient à nos jours, c'est... Pour moi, c'est inconcevable. La manque de notion d'histoire que les gens ont aujourd'hui. Et bon, Notre-Dame, c'est un symbole de l'histoire.
De laquelle, justement? C'est 850 ans d'histoire, Notre-Dame de Paris. Cette présence dans la ville qui ramène cette histoire à la lumière, cette cathédrale mondiale, cet héritage d'une histoire française, mais aussi d'une histoire européenne. Vous le rappeliez, Wim Wenders, chaque monument raconte une histoire. Pour vous, quelle histoire raconte Notre-Dame?
Je trouve que ces monuments, ces endroits racontent nous. C'est eux qui nous ont vus. C'est elle qui nous a vus pendant 800 ans. Elle a vu des générations et des générations de Français. Elle a vu la Révolution française. Elle a vu plein de choses. Elle est témoin. Elle est notre témoin. Et on se rend compte, quand on la voit en flamme, que c'est notre témoin qui est en flamme. Et c'est vraiment un énorme symbole très, très puissant pour ce qui se passe aujourd'hui, pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui comme citoyen européen.
Vous êtes-vous l'un des cinéastes, Wim Wenders, qui avait le plus influencé des architectes, comme les architectes vous ont par ailleurs influencé les villes que vous avez énormément filmées? D'ailleurs, cette cathédrale, vous l'avez filmée? Il y a une scène dans un film qui m'aurait échappé, où vous avez pu capter Notre-Dame de Paris?
Je suis assez sûr qu'elle apparaît un peu dans Carnet de notes et dans L'ami américain, mais je n'ai pas vraiment jamais fait un film seulement à Paris. Je regrette maintenant.
Vous dites que ces monuments sont des témoins. Le cinéma l'est aussi à son tour, en captant ces villes comme vous le faites.
Oui, le cinéma est notre témoin. C'est l'art du XXe siècle. Ça a été inventé pour témoigner ce siècle. Et le cinéma est arrivé avec les grandes villes. Ça s'est né en même temps. Ça n'aurait pas pu naître sans les grandes villes et sans les masses qui arrivent dans les villes et sans leur solitude qui avait besoin d'un miroir comme c'était le cinéma.
Un art de la mémoire. Un mot encore, Wim Wenders, parce que vous êtes le réalisateur l'an passé du pape François, un homme de parole. On vous recevait, ou plutôt on vous entendait à ce sujet dans la grande table par téléphone. Vous étiez alors en Allemagne. Le pape François n'a pas encore réagi officiellement. En tout cas, il y a une petite demi-heure, il n'avait pas réagi. Pourquoi ce silence du Vatican? Vous le comprenez?
Hier, parmi les premières voix, j'ai eu une réaction du Vatican.
Un communiqué du service de presse, de communication, oui. Qui dit que le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse cette nouvelle.
Oui, je ne sais pas, il va certainement dire quelque chose, mais c'est un homme qui ne doit pas tout de suite parler, parce que ce qu'il dit, sa parole, c'est un poids. Et en ce moment, il rencontre Greta, la petite Greta. Pour moi, c'est une rencontre du premier niveau.
La Suédoise, voilà. Dans son combat contre le réchauffement climatique.
Voilà. Mmh.
C'est un combat de premier niveau, c'est l'urgence aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Si les enfants rencontrent le pape, il y a un peu d'espoir peut-être.
un kaléidoscope cinématographique avec des extraits de vos principaux films. Voilà ce qu'on va pouvoir voir à partir de jeudi sous la nef du Grand Palais. On va repartir dans votre œuvre en son avec tout d'abord quelques extraits de vos documentaires.
Voyage has been on its way now for a quarter of a century. The spacecraft is carrying on board a record of pictures and sounds from Earth. And believe it or not, my voice is out here in space. Yeah.
I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Buonasera.
I first saw this picture here in a gallery more than 20 years ago. I had no idea who took it. Whoever it was had to be both a great photographer and an adventurer, I thought. There was a stamp on the back and a signature, Sebastião Salgado. I acquired the print.
I'm indebted to Ozu. Sometimes one feels lonely. Leave me now. I thank you. Yes, one becomes lonely.
Bon, j'ai un papier que m'a donné Wim Wenders. Il a posé une caméra, mis un magnétophone, et il me laisse tout seul. Et il m'a pas bien placé pour que je puisse... regarder le tennis.
Des extraits de Bonavista Social Club, du Sel de la Terre, du Pape François ou encore de Chambre 666, où l'on retrouve Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui était hier l'invité de la Grande Table à l'occasion de la diffusion de son film Le Livre d'Images, un travail sur l'image, un travail sur le son, comme vous aimez tant en faire, vous aussi, Wim Wenders. Le cinéma marque de son empreinte tout ce qu'il donne à voir. Quelle empreinte éphémère pourra-t-il laisser sur cette structure, celle de la nef du Grand Palais, que vous allez habiter à partir de jeudi jusqu'à dimanche à Paris? Est-ce que ces pierres vont garder en mémoire ces images pour vous, Wim Wenders?
Oui, ce serait intéressant de voir toutes ces images sur la, projetées sur l'architecture même de la nef. Et ça va devenir autre chose. Ça sera ni l'architecture, ni le cinéma. Ça sera un tiers. Et comme nous, aujourd'hui, la plupart du temps, on voit les images si petites. Hier, dans la rue, tout le monde regardait leurs petits trucs dans les mains, leurs petits téléphones pour voir les images de Notre-Dame. Pour une fois, au Grand Palais, on va voir ces images en gigantesque. C'est quand même 250 mètres de long et 40 mètres de haut. Et pour une fois, on va voir ces images à une autre échelle et un peu sans qu'ils ont rien à transporter. Ils ne transportent plus d'histoire. Ils sont là, tout seuls, en liberté, pour ainsi dire.
Ouais. Quel dispositif technique avez-vous utilisé pour cette installation?
Ah, c'est pas moi-même, c'est la thème, c'est un énorme truc avec 3 camions et 12 gigantesques projecteurs pour remplir tous ces murs.
En ultra haute définition.
En ultra haute définition. Ouais. Et au début, romantique comme j'étais, comme je suis, j'ai pensé à un triptyque et puis je me suis rendu compte que cette architecture, c'était beaucoup plus grand que l'idée d'un triptyque. On a fini pour concevoir un. Je crois que le mot n'existe pas, quelque chose avec 7 écrans, un sceptique. Et bon, c'est donc gigantesque. On ne peut pas voir tout en même temps. C'est tellement grand qu'on peut se promener dedans. Là où on est, n'importe où on est, on ne peut pas voir l'ensemble. C'est trop grand.
C'est une immersion en 360 degrés, 250
250 degrés à peu près. Et oui, c'est une vraie immersion et j'aime bien le fait qu'on peut se promener à l'intérieur des images du cinéma et qu'on peut être à l'intérieur dans le monde d'un film et pas dans le narratif, mais plutôt les mondes d'image d'un film. Ou de pas mal de films, il y a quand même pas mal d'images d'une vingtaine de films après tout.
Mettre la technologie au service du cinéma, peut-être pour lui offrir aussi une seconde vie. En 1982, l'Italien Michelangelo Antonioni s'inquiétait déjà, un peu comme vous, quand vous évoquez ces images que tout le monde regardait sur son téléphone portable, de ce que le progrès, de ce que la technologie fait ou ferait au cinéma.
È molto difficile parlare di quella che sarà, quello che sarà l'avvenir del cinema.
Il est très difficile de parler de ce que sera l'avenir du cinéma. Il est probable qu'avec le grand écran et la télévision en haute définition à domicile, nous aurons le cinéma à la maison et que nous n'aurons plus besoin des salles de cinéma. Toutes les structures existantes devront disparaître et cela ne sera ni facile ni rapide. Mais cela arrivera et nous ne pourrons rien y faire. Il ne nous restera qu'une chose à faire, nous adapter.
Questo problema dell'adattamento io l'avevo già affrontato nel deserto rosso, appunto, che ho appena citato, e l'adattamento delle persone alle nuove tecnologie.
J'avais déjà parlé de ce problème de l'adaptation dans le désert rouge. Adaptation des individus aux nouvelles technologies, à l'atmosphère polluée que nous devrons sans doute respirer. Il est très probable que l'avenir se présentera avec une férocité que nous ne pouvons que pressentir.
È molto probabile che il futuro si presenti con una ferocia che al giorno d'oggi non c'è ancora, per quanto si già si può presentire quello che sarà.
Il nous faudra nous adapter, dit Antonioni. Vous prenez-vous le taureau par les cornes, plutôt que de subir, vous repensez aussi ce que peut être le cinéma par la technologie.
Oui, un peu plus tard, Michelangelo Antonioni, dans ce petit moment dans chambre 666, dans lequel on avait déjà entendu Godard parler, il y avait une vingtaine de metteurs en scène qui ont parlé sur l'avenir du cinéma, et Michelangelo était le seul qui s'est vraiment jeté dans l'avenir, et un peu plus tard, il dit « on va devenir de nouveaux hommes et femmes ». Et je trouve qu'il a vraiment anticipé l'âge digital, l'âge numérique, parce qu'on est en train de c'est en train de changer nos gènes. On est en train de devenir une autre espèce, et c'est le seul qu'il a prévu. Et évidemment, ils disent « le cinéma va tout changer ». Il va changer, il va nous changer, on va changer avec, et qu'on doit s'adapter. Et on voit ça, on est en pleine adaptation en ce moment. On est dans un temps entre les époques gigantesques et on est juste au milieu. Et c'est un temps où on peut encore réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait bien sauver et emmener du dernier siècle ou de toute la culture qui est derrière nous? Est-ce qu'on veut emmener un petit paquet qui va survivre dans l'avenir?
Mais c'est une révolution du regard aussi qui est en train de se faire, hein, Wim Wenders. Ouais. Et c'est ce qu'on peut aussi constater, qu'on pourra constater en allant voir cette installation, projection que vous mettez en scène dans la nef du Grand Palais, en exposant votre cinéma là-bas, vous le sortez aussi des salles. C'est aussi une manière de repenser sa place dans la société, sa place parmi les autres arts.
Oui, il faut la repenser, parce que ça ne restera pas comme c'est. Déjà, il y a toute une génération qui ne va plus au cinéma et ils ont leur Netflix et leur Amazon et tout ça. Et ils ont besoin des images, mais ils les reçoivent d'une autre manière, déjà. Déjà, la salle de cinéma, c'est nostalgique. C'est une expérience nostalgique. Alors, enlever les images du cinéma et de tout le contexte qu'on connaît et les mettre dans une grande architecture et dire, voilà, réfléchissez bien ce que c'est et comment vous voulez vivre l'avenir avec ça? C'est intéressant. C'était une proposition vraiment sublime de la part de Jérôme Neutre et des Grands Palais de me donner cette chance.
Une exposition, celle d'un objet plastique non identifié, une installation monumentale que vous avez pensée et conçue, Wim Wenders, à partir de votre filmographie et qui sera donc projetée dans la nef du Grand Palais du 18 au 22 avril.
La nuit seulement.
La nuit seulement, gratuitement. Oui. France Culture, il est midi 21.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Vous retrouvez Wim Wenders à chaque fois que vous venez et que vous nous faites le plaisir de venir autour de cette grande table. Les notes de Jun Miyake de son Lilies of the Valley qui était au générique de votre film Pina, consacré à la danseuse et chorégraphe Pina Bausch. À son propos, vous écriviez d'ailleurs dans Les Pixels de Paul Cézanne où vous parlez de vos influences, que son travail réunit les deux sens de votre mot préféré en un seul. Motion ou motion est ici émotion. Quand quelque chose vous touche, cela provoque un mouvement intérieur psychique. Qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui, Wim Wenders?
Je crois surtout le fait qu'on est perdu. Surtout le fait qu'on a encore tout ce bagage avec nous, surtout quand on est un peu plus vieux que moi, et on entre dans un monde qui n'aura plus besoin de tout ça et qui va être redéfini complètement. Et dans ce creux du temps dans lequel on est, tout est un peu aventurier, tout est possible et on peut encore peut-être pas mal préserver si ça vaut le coup de préserver quoi que ce soit. Et hier, justement, en regardant Notre-Dame, je me suis dit, voilà, peut-être ça nous donne tous un peu le goût de réfléchir qu'est-ce qu'on veut que survive, qu'est-ce qu'on veut préserver aujourd'hui de cette longue culture qu'on a derrière nous, qu'est-ce qui vaut le coup que ça existe encore.
Et vous faites aussi entrer le monde, le vôtre, celui que vous avez filmé, ce réel que vous avez capté, Wim Wenders, sous le toit du Grand Palais, en cinéaste prestigieux. Pas facile à dire, prestigitateur en français. Vous supprimez les frontières, vous supprimez les frontières entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'architecture et le cinéma. Cette question des frontières qui est centrale aujourd'hui en Europe et dans les débats européens. Abolir les frontières entre les arts, entre les hommes, c'est aussi rendre au mouvement, pour vous, sa liberté.
Oui, il va falloir donner pas mal de liberté à plein de phénomènes. Et on est encore un peu coincé pour décider. Et évidemment, il y a plein de forces en Europe qui veulent que tout soit enfermé et qui veulent recommencer à tout enfermer. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est plus possible. Ça ne sera plus possible. On ne vit plus dans un monde où on peut enfermer les phénomènes. On ne peut plus. Et donc il faut chacun penser dans son propre monde à cette idée qu'il faut, comme le dit Antonioni, il faut commencer à devenir de nouveaux êtres, prêts à voir les choses d'une manière l'un à côté de l'autre et pas l'un séparé de l'autre. Il faut voir les choses ensemble. Il faut voir les races, les pauvres et les riches d'une autre manière. Il faut créer finalement ce que, quand même, la France a imprégné dans le monde entier, cette idée d'égalité. Il faut maintenant la réaliser ou ce sera la fin de notre civilisation. S'il n'y a pas d'égalité. Et l'égalité, il ne peut pas y avoir en construisant de nouveaux murs.
On ne sait pas où commence l'architecture et où le film finit avec émotion que vous présenterez donc au Grand Palais. C'est une déambulation en immersion que vous nous proposez au cœur de votre cinéma. Cette nef du Grand Palais, c'est une autre prouesse architecturale qui a été conçue, elle, par Henri de Glane, inaugurée en 1900, classée monument historique. C'est un geste sensible, donc, une mise en mouvement sur un décor de pierre. Vous devez vous sentir tout petit. Comme nous, on se sentira tout petit au milieu de ces images, dans cette nef. C'est aussi pour vous l'envie de mettre en place comme une expérience sensorielle, dans un moment où la sensibilité, on en fait assez peu de choses. Essayer de voir plutôt que de recevoir, c'est ce que vous cherchez à provoquer chez ceux qui se rendront au Grand Palais.
Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. On se sent assez petit. Et moi, bon, pendant des semaines, j'ai fait ce montage pour le nef en m'imaginant cet espace incroyable Et quand on l'a vu la première fois, je n'ai pas reconnu ce que j'avais vu dans la salle de montage. C'était trop grand. J'étais tellement petit là-dedans et tout le monde est tellement petit. Et bon, quand on a une grande masse de gens qui se promènent là-dedans, ça donne peut-être une autre perspective. Mais en même temps, ça met en question les relations que nous on connaisse entre les images, le cinéma, ce que c'est aujourd'hui, les images qu'on peut tenir dans la main. Je me rappelle que pour la première fois, c'était dans les années 90, il y avait ces petits écrans, il n'y avait pas encore les téléphones, mais il y avait les petits écrans qu'on pouvait tenir dans la main, et je me suis dit, oh là là, ça va changer notre culture, le fait qu'on peut, dans sa propre main, tenir le monde. Et en même temps, on est aussi petit qu'avant, nous-mêmes.
Sans l'image, mais avec le son, on va se quitter, Wim Wenders, avec une mise en mouvement du monde à travers vos films. Des ailes du désir à Paris, Texas, de si loin, si proche, à Alice, dans la ville. Merci beaucoup à vous, Wim Wenders.
Merci, Olivia.
Can I tell you something?
Sure. Anything you like.
It's kind of long.
Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung. Hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
Ich bin beinahe müde, Kassiel. Es ist so mühsam geworden, jemanden zu lieben, der immer hartherziger vor uns davonläuft. Warum meiden sie uns immer mehr, die Menschen?
Weil wir einen mächtigen Feind haben, Raffaella. Die Menschen glauben der Welt so viel mehr als uns.
Und damit sie ihr immer mehr glauben können, haben sie sich von allem ein Bild gemacht. Mit Bildern glauben sie sich ihrer Angst entledigt. Mit Bildern glauben sie ihre Hoffnung erfüllt, ihre Freude befriedigt, ihre Sehnsucht gestillt.
I'm afraid of walking away again. I'm afraid of what I might find. But I'm even more afraid of not facing this fear. I love you, Hunter. I love you more than my life.
Was machst du in München?
Ich schreibe diese Geschichte zu Ende.
Deine Krickelei?
Du? Was machst du?